L'Algérie des camps. Une enquête à travers l'histoire des camps de regroupement et leurs conséquences jusqu'à aujourd'hui.
Je m'appelle Dorothée. Mon deuxième prénom, c'est Myriam. Je suis de mère française et de père algérien. J'ai grandi en France, à Nancy. Au collège, avec mes copains de parents algériens, marocains, tunisiens, j'étais fière de dire « Mon père est algérien, je suis algérienne ». On me demandait alors si je parlais l'arabe. Et non, je ne parlais ni l'arabe ni le kabyle. Je ne connaissais rien à l'Algérie. Je n'y avais jamais mis les pieds. Mon père ne m'avait jamais parlé de son histoire. Je savais juste que mon père, Malek Kellou, était réalisateur algérien à la télévision française. J'étais face à un vide, face à un malaise. Quand je l'interrogeais, mon père répondait par bribes. J'entendais surtout ses silences. Mes études en sciences politiques et en arabe, mes voyages en Égypte, en Palestine, aux États-Unis, m'ont ramené à l'Algérie. Un long détour pour qu'un jour, l'un de mes profs américains, Oussama Abi Marched, spécialiste de l'Algérie coloniale, m'invite à creuser du côté de l'oubli. J'ai donc appelé mon père. Il m'a invité à relire « Lettre à mes filles », un scénario de film qu'il nous avait offert un soir de Noël. La première fois que je l'avais lu, je n'en avais pas saisi l'importance. Est-ce que tu as encore le scénario de film que tu m'avais offert à Noël, « Lettre à mes filles » ?
Oui, bien sûr, je l'ai regardé, oui.
Et est-ce que tu peux me relire le passage où tu parles de ton village, Mansoura ?
Je suis originaire d'un hameau de Mansoura, un village de petite Kabylie en Algérie. Pendant la guerre, l'armée française avait décidé d'évacuer des hameaux trop isolés, Mansoura, Thedelf, le bourg en berbère. Nous avons été regroupés au centre, un lieu placé sous le contrôle de l'armée française. Le terrain était entouré de barbelés et il nous fallait obtenir des autorisations pour cultiver nos champs laissés à l'abandon. Selon les autorités françaises, il s'agissait de protéger les enfants, les femmes du FLN. Mais surtout, selon moi, de limiter le soutien des populations algériennes aux combattants du FLN. Je ne suis jamais retourné dans mon village depuis cette époque. Je n'ai jamais revu ma maison. Je n'ai jamais revu mes amis de Mansoura. Aujourd'hui, c'est mon souhait le plus cher d'y retourner. Je retournerai.
Regroupement. Je ne comprenais pas ce que ce mot voulait dire. J'ai commencé mes recherches. Je suis tombée sur une archive de RFI, qui date de 2004. Michel Rocard était interviewé à propos de son rapport sur les camps de regroupement qu'il avait rédigé en pleine guerre d'Algérie.
Bonjour Michel Rocard.
Bonjour madame.
Quelle est l'image qui vous a le plus marqué de ces trois mois de l'automne 1958 que vous avez passé à sillonner l'Algérie, à enquêter sur ces camps de regroupement ?
L'image qui m'a le plus frappé, c'était la noire misère des populations qui vivaient là. Et j'ai dû visiter une quinzaine de centres, probablement approchant de 60 ou 80 000 habitants. Dans l'un des cas, une femme inquiète et vêtue de haillons, elle apporte son enfant que le lieutenant prend dans ses bras et nous voyons physiquement l'enfant mourir. Je dis au lieutenant, ça semble pas beaucoup vous émouvoir. Réponse du lieutenant, monsieur, c'est le troisième depuis quatre jours, si je devais m'émouvoir, je pourrais plus faire mon métier.
Je ne soupçonnais pas une telle histoire. Comment mon père a-t-il pu garder un tel secret ? J'ai alors 25 ans. C'est difficile pour moi de découvrir mon histoire algérienne à travers la violence de la guerre. Je trouve des archives sur Internet.
Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint.
Dès le début de la guerre, l'armée française décide de lutter contre le Front de Libération Nationale, dit FLN,
engagé dans la lutte armée pour l'indépendance de l'Algérie. Le FLN trouve appui auprès de la population qui lui fournit des moyens logistiques, notamment des abris et de la nourriture. Des zones interdites sont créées où tout homme suspecté d'être du FLN peut être abattu sans sommation. La population est chassée de ses habitations et regroupée dans des camps sous la surveillance de l'armée. Les villages, vidés de leurs habitants, sont souvent détruits pour ne laisser aucun refuge au FLN. À la fin de la guerre, 2 350 000 personnes ont été déplacées par l'armée française et regroupées dans des camps. 1 175 000 ont été forcés de quitter leur lieu d'habitation et contraints à l'errance. En avril 1959, le rapport de Michel Rocard fuite dans la presse française et révèle à l'opinion l'existence de ces camps. Le rapport fait scandale. Il fait craindre la répétition d'une histoire, celle des camps de concentration. Pour gérer la crise, le gouvernement français annonce le lancement du programme des 1000 villages. Les regroupements, improvisés par les militaires, deviennent alors une politique de développement rural. La communication du gouvernement veut faire oublier la réalité des camps.
Ces transplantations de population posent, pourquoi le cacher, des problèmes humains graves. Mais ils peuvent être aussi l'occasion de donner aux fellahs un habitat plus décent que par le passé. L'opération 1000 villages dont notre hélicoptère nous a permis de visiter quelques exemplaires dans la presqu'île de Kolo, s'est en partie greffée sur ces regroupements. Et puis, il y a les écoles où des instituteurs apprennent le français aux petits musulmans avec l'accent du Roussillon ou de Provence.
Les témoignages des populations regroupées sont rares. Je veux comprendre ce qu'elles ont vécu. Je décide de partir avec mon père à Mansoura, à 200 km à l'est d'Alger, dans les montagnes, au sud de la Kabylie. Cela fait 50 ans qu'il n'est pas retourné dans son village. Je décide à cette occasion de réaliser un film pour créer des archives. Nous arrivons à Mansoura, où il retrouve la maison familiale.
Mais il paraît que quand je suis né, il y avait 2 mètres de neige. Et mon père n'a pas pu aller prévenir les gens du village pour venir. Donc il a juste pris son fusil, il a tiré 3 coups de feu pour prévenir qu'il y a un événement dans la maison. Donc c'était la naissance de Malek, quoi. Et puis deuxième événement, c'est... J'ai failli perdre la vie. Parce qu'en fait, l'armée française à l'époque lançait des bombes éclairantes pour voir s'il n'y a pas de FLN, enfin de l'ALN qui tournait autour dans les rues et tout. Et la chose est arrivée juste au-dessus de mon lit. À ce moment-là, c'était la grande bataille avec la Wilaya 3, donc ils essayaient au maximum de nettoyer la Wilaya 3.
Pendant la guerre, la région de Mansoura était un important point de passage du FLN. Les combattants traversaient la région militaire, appelée Wilaya 3, pour aller chercher des armes en Tunisie. Ils trouvaient soutien auprès de la population de El Hamra ou Lad Abbas, des villages situés plus haut dans les montagnes et difficiles d'accès pour l'armée française. Mansoura était alors un grand hameau, fait de maisons en pierre, situé à 300 mètres d'altitude au-dessus d'un bourg colonial. Placé sous surveillance militaire française, il a pris la forme d'un camp et regroupé les populations déplacées par l'armée. Je poursuis mes recherches dans le Mansoura d'aujourd'hui avec mon père. Je rencontre une femme, poétesse, mémoire populaire de l'événement. Elle me raconte que les familles avaient été déplacées et entassées à Mansoura. Ils étaient parfois 7 familles par maison. À Mansoura, ils ont été à jamais séparés. Sur la place du village, un homme se souvient. Les prisonniers algériens avaient installé les fils barbelés pour que le FLN ne puisse plus pénétrer dans le village. Il ne restait que deux portes, l'une vers le cimetière et l'autre vers les champs abandonnés. Je ne m'imaginais pas qu'un village puisse être entouré de fils barbelés. Et tu m'avais dit, c'est l'histoire des regroupements de population. Et là, tu m'avais dit une phrase, je me souviens encore, c'est le point d'attaque d'une vie brisée par la guerre qui nous a donné droit à l'errance et à l'immigration. Donc, bon, moi, ça m'a travaillé, quoi, parce que je me suis dit, mais en quoi les regroupements ont pu briser des vies et conduire à l'errance toute une population ?
C'est-à-dire que pour moi, le fait d'avoir vécu cette période pendant 4 ans, où il y avait des fils barbelés autour de mon village avec des gardiens, des anges gardiens, avec deux sorties, enfin l'histoire de surveiller les gens, de les contrôler, est tellement rentré dans mon quotidien et dans ma sensibilité que je ne voyais pas que finalement on était enfermé avec des barbelés. Mais on ne nous a pas empêchés de regarder le ciel le soir avec nos mères, grand-mères, cousines, etc. On se mettait sur les terrasses et on évoquait le déplacement des étoiles. On se disait, on n'est pas à Mansoura, mais on est à l'intérieur d'un cosmos.
Je sentais que je ne trouverais pas toutes mes réponses auprès de mon père. Il avait une forme de pudeur et de protection.
Donc en fait, cette histoire, tu m'en avais jamais parlé. L'histoire des regroupements.
Oui, oui.
C'était pas une histoire dont tu parlais.
Non. Non, c'est... Pour moi, c'est rentré dans mes... dans mes oublis. Je collectionne des oublis, voilà. Non, mais c'est des choses qui sont des périodes un peu difficiles qu'on a vécues, chacun à sa manière, évidemment, mais ma façon à moi, c'était des moments douloureux, donc j'avais besoin d'oublier. C'est pas un truc qui fait plaisir à ses enfants qui sont loin, qui sont nés en France, qui ne connaissent pas l'histoire de la guerre d'Algérie, qui ne connaissent pas l'histoire de la colonisation, de l'oppression, comment c'est la vie des enfants, les traumatisant avec nos propres problèmes, laisse-les grandir et arriver à comprendre après, bon, après, voilà, où en sont les choses.
Toutes ces rencontres avaient éveillé ma curiosité. La réalisation de mon film avait créé des liens qui me permettaient de poursuivre cette recherche. J'apprenais l'existence de Jean-Marie Robert, sous-préfet de la République à Agbou en Kabylie, qui avait dénoncé les camps en pleine guerre d'Algérie. J'allais rencontrer son fils, Hugues Robert, lui aussi en quête de mémoire. En avril 2019, j'ai fini de fabriquer mon film sur la mémoire intime des regroupements de population dans le village de mon père, Mansoura. Le titre, « À Mansoura, tu nous as séparés », est emprunté à une poétesse, Oum El Khir, que j'ai enregistrée sur place. J'ai projeté le film en Algérie, en France et ailleurs.
Mais je suis vraiment dans le pour assister au débat parce que je dois prendre un métro, mais franchement c'était magnifique. C'était
merci à vous.
J'avais déjà regardé à Tlemcen et là je suis
d'accord.
Un deuxième coup.
Bah,
et
ça fait plaisir.
C'est magnifique. Merci beaucoup.
Un jour, j'ai découvert ce message sur Facebook d'un certain Hugues Robert.
Bonjour Dorothée, je viens de découvrir votre film bouleversant qui m'a touché. Journaliste à la retraite, j'ai vécu de 59 à 62 en Algérie, à Agbou, où mon père était sous-préfet. Il a dénoncé les tortures, les camps de regroupement. Il y avait 25 000 personnes regroupées sur 105 000 habitants. Entre Agbou et Dordogne, en ce moment, je travaille sur ces mémoires, sur cette douleur. J'aimerais parler avec vous. J'ai un tas de documents confidentiels.
J'ai ouvert Lettre à mes filles, le scénario de mon père, un soir de Noël. Hugues Robert a ouvert la malle de son père un soir d'été. Il l'avait déménagée partout pendant près de 30 ans et jamais ouverte jusqu'alors. À son retour de la guerre, son père avait dû rejoindre un hôpital psychiatrique. Combattant de toutes les lâchetés et abandons, il avait vu trop d'horreurs et n'avait pas pu s'en préserver. Hugues Robert a pris le train et est venu me voir à Paris avec une valise de documents. J'ai trouvé en Hugues un allié. Je me sentais moins seule. On sera plus à l'aise sur le canapé. Allez. Oui, on va prendre le café là-bas. Est-ce que je vous ramène ça là-bas? Vous allez ramener des documents. Oh là là, ouais, vous êtes chargé, hein.
Non, mais je me suis chargé en même temps. Mais j'ai 100 fois ça.
Que votre père a laissé, en
fait. À garder.
Ouais.
Je me suis fait allumer, mais vous n'avez pas à voir ça. J'ai dit, mais je les ai.
C'est des documents classifiés, en fait.
Confidentiels, oui.
Confidentiels.
Il y a des confidentiels, plus des lettres personnelles. Il y a 60 lettres personnelles. Il avait tout gardé. Tout. Des trucs secrets, des trucs... Là, c'est pour ça que je sens qu'il y a beaucoup de peur.
Il y a beaucoup de peur de la part des officiels.
Des officiels, parce qu'ils veulent raconter leur histoire.
Ouais, leur version. 50 ans après... Il est prêt à affronter la guerre de son père, Jean-Marie Robert, préfet de la République, sous-préfet dans l'arrondissement d'Agbou, le fief historique du FLN. Jean-Marie Robert arrive en Algérie en 1959, quelques mois après le retour au pouvoir du général de Gaulle, président de la toute nouvelle 5e République, qui entend reprendre l'ascendant sur les militaires qui dominent en Algérie.
C'est une journée inoubliable que vient de vivre Alger. Parce que le premier problème de l'heure est l'Algérie, le président de Gaulle a voulu que le premier acte de son gouvernement soit une visite à Alger. Accueilli à l'aéroport par le général Salan et les membres du comité de salut public, le général devait trouver tout le long des 20 km qui séparent Alger de Maison-Blanche la même foule mêlée venue pour l'acclamer.
Gaullien convaincu, Jean-Marie Robert veut restaurer l'ordre et la justice dans son arrondissement à Agbou.
Il y a un document qui paraît impossible, impensable même. Et ce document, c'est une note de service que mon père, sous-préfet qui arrive, oblige le colonel de l'armée à diffuser à tous les militaires. Je vous lis juste l'article. Tout individu surpris à voler ou à violer ou à molester la population, sera traduit devant un tribunal militaire. Toute autorité qui aura cherché à dissimuler des exactions fera l'objet d'une sanction sévère. On avait le droit de violer et de voler en toute impunité.
Lorsque Jean-Marie Robert arrive à Agbou, 60 personnes par mois mouraient sous la torture dans son arrondissement. Il combattra ces pratiques systématisées. Et votre père voulait traduire en justice des militaires français ?
Ah, mais il a fait traduire en justice. Deux militaires français, oui.
Mais ça, c'était pendant la guerre ?
Pendant la guerre, oui.
Et après la guerre, il voulait poursuivre ?
Ah non, parce qu'il y avait l'amnistie et que, de toute façon, il n'y avait plus rien à faire, et voilà. Mais en plus, le paradoxe de ce gars, de mon père, c'est que avant de passer l'ENA, il a fait une licence de philosophie, ce qui est étonnant. Et puis, mon père a été moine pendant 3 ans à Cîteaux, et qu'effectivement, il était profondément chrétien. Aime ton prochain comme toi-même, donc pour lui, c'était impossible, impensable de ce qui se passait, quoi. Il a dit, quand on ne peut pas donner l'égalité, il faut rendre la liberté.
Jean-Marie Robert était sous-préfet à Agbou, dans la vallée de la Soumam, largement acquise au FLN. C'est dans cette région qu'un congrès clandestin du FLN a eu lieu en août 1956, pour poser les bases du futur État algérien. Pour lutter contre le FLN dans la région, l'armée française a massivement détruit les villages,
créer des zones interdites et regrouper la population. Loin de leurs terres, les paysans dépendaient des petits boulots qu'ils pouvaient trouver et des ressources distribuées par l'État. Hugues Robert me montre des photos prises par son père. Jean-Marie Robert a visité les camps et s'est indigné des conditions de vie de la population. Il s'en est plaint à sa hiérarchie.
Où est-ce que je vais la retrouver ? Je pense que je l'ai.
Voilà, entre autres, les rapports secrets qu'il faisait. Par exemple, la lettre que j'ai reconstituée sur ce qui se passait sur les enfants qui mouraient de faim dans les camps de concentration. Oui, dans les camps de regroupement, où il était en colère. Et il a dit, mais j'ai envoyé une lettre à Tricot, secrétaire général de l'Élysée, pour lui dire ma colère. Je rappellerai qu'actuellement, les réfugiés ne reçoivent en moyenne de l'État qu'un kilo de semoule par mois, soit 80 francs, et pour la première fois, aucun secours vestimentaire à l'entrée de l'hiver. Il est à craindre que cette aumône mensuelle de 80 francs provoque plus de ressentiment que de reconnaissance. Il paraît douteux que cette population, le quart de l'arrondissement, qui aura survécu pendant plusieurs années dans les conditions effroyables, sur décision de l'armée et sans aide réelle de l'administration, pardonne jamais à la France.
Et est-ce que vous avez des descriptions justement de ces camps que vous pouvez peut-être nous lire ?
Ouais. Non, j'avais retrouvé, effectivement, parce que mon père, je pense qu'il avait des envies d'écriture, mais il n'a jamais eu trop le temps. Et puis, il y avait des petits bouts. Donc, je suis passé dans un des nombreux camps de la vallée de la Soummam où vivent 25 000 personnes, surtout des vieux, des femmes et des enfants. Ils croupissent, devrais-je dire. Là, il y a des gourbis en paille et terre séchée. Ici, des petites baraques en parpaing et en tôle alignée. Ce sont des camps retranchés, alignés, gardés, encerclés de miradors et de barbelés. Quelques maisons mieux bâties sous tuiles. Mais ils sont enfermés, entassés à plusieurs familles, dans des terrains vagues, entourés de barbelés loin de chez eux. C'est vivable mais miséreux. La boue l'hiver, la sécheresse l'été. Et surtout des gens inactifs et reclus. On a déménagé ces gens, des familles entières, pour les éloigner des félagas, des rebelles, des hors-la-loi. Mais forcément de leur village, de leur montagne, de leur ville. J'en suis effaré de les voir ainsi livrés à l'inactivité, à l'attente, au silence, au dénuement. Il y a un vieux, un ancien caïd, qui m'a parlé de ses regrets, de sa situation d'avant. Un homme instruit, un vieux sage. Vous voyez, ici, on n'a plus rien. Ni l'air pur de nos montagnes, ni la djema des hommes, ni l'eau courante où se retrouvent les femmes, ni nos jardins ou nos champs que nous avons cultivés. Regardez cette cour qui donne sur nos maisons, où se mêlent toutes les familles. Regardez la citerne d'eau où les femmes, dans la boue sale, vont juste ouvrir le robinet. Regardez cette terre sableuse où traînent 4 poules, 6 chèvres et 3 moutons, où les enfants désœuvrés jouent au ballon. Ce n'est pas une vie, monsieur le sous-préfet. Quand est-ce qu'on va retrouver nos maisons, nos villages, notre djema, la place où les hommes se retrouvent, où les vieux parlent, où les jeunes écoutent, où les hommes d'âge mûr décident? Vous savez, monsieur, ce n'est pas de l'eau courante qu'on veut. C'est retrouver nos points d'eau, notre rivière, notre source, notre fontaine, même éloignée du village, pour que les femmes puissent se retrouver, comme elles le faisaient dans le village. Pour les femmes, c'est un cheminement, une distraction d'aller chercher l'eau. C'est montrer leur plus beau atour. Et pour les jeunes mariés, le 7e jour, leurs bijoux et leurs broderies. Voilà, tout cela, c'est fini, disparu, mort. C'est pour cela que vous nous voyez tristes, pas contents, et désirez de rentrer dans nos villages. Et puis la semoule, l'huile, le sucre et les légumes que vous nous distribuez n'ont rien à voir avec les oignons, les carottes, les navets, les olives, les figues que nous cultivions dans nos champs. Et puis les fêtes de l'Aïd avec le sacrifice du mouton. Eh oui, j'entends ce qu'ils me comptent, surtout que je me souviens de mon village d'Auvergne, où enfin j'ai amené des chevaux à l'abreuvoir, où les hommes se réunissaient au café, ou sur la place du village discutant, jouant aux boules ou aux quilles, où les jeunes femmes se retrouvaient à la fontaine et au lavoir, les vieilles près de l'église, et où nous avions tous un rôle social. Et puis le mercredi ou le samedi, nous montions en calèche à pied ou en voiture en marché au chef-lieu, à Mauriac, où chacun vendait ses poules, ses légumes, ses œufs ou rien. Nous rencontrions sur le café de la place les cousins, les amis, les copains, pendant que nos parents parlaient affaires et politique.
J'étais émue d'entendre la voix des regroupés, qu'il avait eu la sensibilité de retranscrire. J'ai appelé Fabien Sacriste, jeune historien, auteur d'une thèse de 1000 pages sur les camps de regroupement. J'étais curieuse de savoir s'ils avaient été nombreux, du côté des officiels, à s'être souciés réellement du sort de la population.
Assez tôt dans la guerre, les acteurs civils et militaires avaient pris conscience des dégâts humanitaires causés par cette politique. Dès 1959, le délégué général Paul de Louvrier, l'équivalent du gouverneur en Algérie, interdit toute création de nouveaux regroupements. Il créa une inspection générale pour étudier les conditions de vie dans les camps et coordonner la politique des 1000 villages. Il en confia la direction au général Parlange. Le général Parlange avait lui-même réalisé des regroupements au début de la guerre. Il voyait bien que la population avait été réduite à une ruine totale. C'était ses mots. Mais il n'était pas contre les regroupements. Il fallait simplement mieux les penser. Il envisageait d'ailleurs de regrouper davantage de civils, de 3 à 5 millions de personnes dans ces nouveaux villages, présentés comme des centres urbains de développement économique et social. Je retrouve une archive de juin 1959, où Paul de Louvrier parle des 1000 villages et du sort des populations regroupées.
Et là, nous sommes en train de mettre sur pied ce programme de 1000 villages nouveaux, entendant par 1000 villages non pas seulement l'édification des maisons, non pas seulement l'édification de mairies, mais surtout l'exploitation des terres par le fellah lui-même, de façon à ce que la sueur de son front, il gagne son pain, ce qui est la première dignité de l'homme.
Pour les principaux acteurs militaires, le programme des 1000 villages fut perçu comme un chèque en blanc pour continuer à regrouper. Et ils ont continué à regrouper jusqu'à la fin de la guerre. À Agbou, Jean-Marie Robert a essayé d'organiser les premiers retours de regrouper dans leur village d'origine, avant même la politique de dégroupement officielle qui prit effet à la fin de la guerre.
Voilà 5 ans, l'armée décidait de faire le vide dans le bled. Elle a évacué les villages isolés et entassé les habitants dans des camps protégés.
Je découvre un reportage réalisé à Messada en 1961.
La lutte contre les Fellahs devait s'en trouver facilitée. Et puis voilà 2 semaines, à l'ouverture de la conférence d'Évian, la France a décidé seule de faire la trêve. Dans un grand nombre d'arrondissements, les musulmans peuvent désormais retourner chez eux, comme ceux-là. Votre maison, comment elle est en ce moment?
Moi, j'en ai 4 maisons couchées. Il y a une cuisine, il y a un courrier, il y a un garage. Tous tombés.
Tout tombé, tout cassé.
Et le camion perdu aussi. Le camion, il a cassé tout. Vous venez ici pour tranquille. Parce que nous, il n'y a rien de mal pour la France.
Il fallait que je retourne en Algérie. Je partais seule cette fois, pour la radio, pour retrouver les traces de ces camps. Je rencontrais Sarah, à côté de Béjaïa. Elle venait de découvrir que son père aussi avait vécu cette histoire. Je suis venue présenter mon film à Alger. L'annonce de la projection a circulé. J'ai reçu un message de Sarah, jeune doctorante en architecture. Elle m'a invitée à lui rendre visite en Kabylie, près de Béjaïa, à 200 km à l'est d'Alger. Elle me promettait de m'aider dans ma recherche de nouveaux témoins sur les regroupements. Je prends au mot l'invitation de Sarah.
Ça va ?
Je pars avec Miloud, le régisseur de mon film, lui-même descendant de populations regroupées à Mansoura. Sur la route, il passe en boucle les chansons du Hirak, le mouvement de contestation populaire, entamé le 22 février 2019, qui a conduit à la démission du président Bouteflika. Plus d'un an après le Hirak, Miloud manifeste moins, mais il continue de chanter son désir de liberté, les fenêtres baissées et la musique à fond sur l'autoroute.
Alors ça va, pas trop fatigué?
Ça va, c'était...
Sarah, jeans, basket, veste en cuir, grandes lunettes noires à la mode et cheveux en arrière m'accueille en compagnie de son père à Souk El Itnine, près de Béjaïa. Il m'emmène rencontrer un de leurs amis, Bouzid, militant du FLN à l'indépendance. Il était enfant dans le camp de Tizi Loued. Il y a eu là-bas 4 camps de regroupement, Tizi Loued, Louta, Souk El Itnine et Melbou.
C'est la même histoire.
Mais à quoi ressemblait le camp de regroupement? Est-ce qu'il c'était des tentes? Est-ce que c'était...
Avant, c'était des tentes. Après, la population ne veut pas rentrer là-dedans. Elle a refusé de rentrer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont fait des gourbis comme ça. C'est des gourbis...
Attends, ils ont construit des gourbis.
Le père de Sarah et son ami parlent des gourbis. Ces habitations sommaires en terre sèche et branchage.
En 60, ils ont commencé à construire des maisons en mur. Il y a trois pièces, une cuisine.
D'accord.
Après, ils ont détruit les gourbines. La population rentre dans les maisons.
2 ans avant l'indépendance, l'armée française obtient finalement des crédits pour transformer le camp en dur. Des 3 pièces cuisine en parpaing gris. Ces camps en dur, je tiens à les voir de mes propres yeux. Sur la route, dans la voiture, Sarah me confie l'émotion qu'elle a ressentie en découvrant l'histoire de son père.
Mais toi, tu connaissais pas cette histoire?
Non.
Jamais?
Jamais.
C'est vrai?
Jamais entendu. Non, en fait, j'ai déjà entendu parler de la thématique des camps de regroupement, mais je ne savais pas qu'il y en avait tant ici à Surkaltnin, par exemple.
Et tu as découvert que ton père, il avait grandi dans un camp?
Grâce à toi.
Incroyable. Et ça t'a ému?
Oui, bien sûr. Parce qu'avec mon père, on partage tous les détails. Donc, on était en train de discuter. Tu sais, il y a une certaine journaliste qui aimerait. Et lui, il m'a dit, ah, oh, ça tombe bien parce que...
Et qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir, hein?
Bah, quand même, c'est tragique. Ça, à l'époque, les gens, ils ont souffert. C'est pas facile.
Nous sommes dans le camp à Melbou, quelques kilomètres plus loin, près de la mer. Un homme approche et nous guide, là où subsistent seulement quelques maisons, construites dans le cadre du programme des 1000 villages. Ce programme, lancé à grand renfort de communication, devait changer l'image de l'univers concentrationnaire des camps, révélé dans la presse en 1959.
Ça a disparu, en fait.
Hein? Il commence à disparaître, lui. Il commence à construire, lui. Il commence à disparaître, ce village-là. Ces maisons commencent à disparaître, oui.
Ah oui, d'accord.
Je me souviens, moi, quand j'avais deux maisons. Ah. Voilà, c'est mademoiselle, elle qui va donner, ceux-là qui vont donner les images.
Et ça, c'est encore habité aujourd'hui?
Ils sont habités, oui, ils sont habités. Où ils vont y aller? Ils n'ont pas où aller.
Dans le camp, je vois de petites maisons en parpaing, de plein pied, toutes identiques. 2 chambres, 1 cuisine, 2 courettes. Elles avaient été construites alignées pour être facilement sous la surveillance de l'armée.
Ça date de quand, ces constructions-là?
De 58-59, mademoiselle.
58-59, d'accord.
Ouais, c'est comme ça.
Aujourd'hui, de grands immeubles de 4 ou 5 étages remplacent peu à peu ces maisons et effacent les traces du camp et de son histoire. Et il y en avait combien qui étaient construites?
À peu près, oh là, je ne peux pas te dire, mademoiselle, 100, 150. Ils n'ont pas fini. Il y avait beaucoup de maisons qui sont sorties pour les construire. Après, c'était l'indépendance et ils ont arrêté. Eux, le parpaing, le ciment, la ferraille, c'est l'État qui le paye, l'État de la France. Le manœuvre, c'est toi qui vas travailler.
Salam alaikum.
Malikoum salam.
Ça va, la baisse. Kini, un cran, de flicons de regroupement. Tu m'as ramené, tu as fait tu déjà France à Bhiri. Tu as ta journaliste.
Ok, ça fait.
Sarah frappe à la porte de l'une de ces maisons, dont les tuiles tiennent grâce à des pierres. Dernier témoignage presque intact du camp. Une vieille dame, le visage ridé, les joues creusées, nous ouvre. La grand-mère parle en kabyle, la langue de mon père. Je comprends qu'elle n'a jamais quitté cette maison. Elle se plaint de la mauvaise qualité des matériaux et des infiltrations d'eau. Elle vit là depuis 1958. C'est ici que ses 2 fils sont nés. Cette maison, c'est De Gaulle qui l'a construite, dit-elle. Avant d'être regroupée, elle habitait dans la montagne, mais elle n'y est jamais retournée. Sa maison a été détruite par l'armée française. Écrasée, dit-elle. Elle a encore en mémoire des mots de français. Elle n'a jamais reçu de compensation de la France et n'a jamais eu les moyens de reconstruire à la place.
Ah oui, c'est minuscule.
Regardez, c'est abandonné, comme ça.
Et vous êtes resté ici, vous n'avez pas eu de possibilité d'avoir un meilleur logement ?
Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, où lèche ?
Dans le camp, je suis mal à l'aise. Je donne l'impression de m'extasier devant la peinture bleue qui dissimule la noirceur du lieu.
Ah, c'est joli le bleu. C'est vous qui avez mis la couleur bleue ? Ah ouais, oh là là, c'est petit. Ah oui, c'est minuscule.
En fait, je me sens oppressée. Ce ne sont pas des maisons, mais des cellules. On y respire à peine, on s'y tient mal debout. Les plafonds sont bas et les murs très rapprochés. Il y fait sombre, les ouvertures sont étroites. Comment les paysans arrachés à leurs terres ont pu s'adapter à ce nouvel habitat ? Ont-ils cru au discours de développement que formulaient les autorités françaises ?
Ouais.
Je poursuis ma visite du camp. Le guide improvisé revient vers nous.
Il y avait c'est l'école ici ?
Bien sûr, j'étais à l'école, oui. J'ai fait 4 ans simplement d'études. Je suis rentré en 9 ans ou 10 ans à l'école. Parce que lorsqu'on était là-bas, en haut, le Moudjahidine ne nous laisse pas aller à l'école. Il nous interdit d'aller à l'école.
Il nous parle de l'école qui lui était interdite au village, dans les montagnes, avant le regroupement.
Si ton père t'envoie à l'école, ils vont venir la reprendre, ils vont le menacer, ils vont l'assassiner. Après...
Parce qu'ils ne voulaient pas que vous soyez sous l'influence de la France.
Voilà, après, quand on est descendu ici, la France nous a amenés avec force à l'école.
Vous n'aviez pas le choix.
Mais on était à l'école, on est bien. On connaît parler le français, on connaît lire, on connaît. Elle nous a enlevé des poux, elle nous a enlevé les ongles, elle nous fait l'inspection de propreté toutes les semaines. Le regard, est-ce qu'on a fait une douche ou pas ?
Il parle également des SAS, ces sections administratives spécialisées. Aujourd'hui, le mot SAS remplace souvent le mot camp dans la mémoire collective. Pendant la guerre, 700 SAS, 4000 officiers, ont tardivement apporté à la population rurale des écoles, des dispensaires et des activités sportives pour les enfants. Mais l'objectif était aussi militaire. Le contact étroit avec la population permettait d'obtenir des renseignements pour lutter contre l'ennemi. Dans les camps, souvent, la population se montrait favorable à la France le jour et s'organisait pour soutenir le FLN la nuit. Les regroupements ont beaucoup affaibli le FLN. Pour survivre, les combattants devaient s'approcher des camps de regroupement placés sous surveillance française. Les risques y étaient bien plus grands que dans les montagnes, difficiles d'accès pour l'armée. Dans les camps, il y avait une majorité de femmes et d'enfants. Les rares hommes qui restaient, manquant de vivres, pouvaient s'aider et s'engager comme harki, supplétifs de l'armée française. Ils avaient ainsi de quoi donner à manger à leur famille. Mais d'autres, soutiens du FLN, poursuivaient la lutte et se réorganisaient à l'intérieur du camp.
Vous dites les réfugiés.
À Mansoura, dans le village de mon père, comme partout, il fallait des autorisations de l'armée pour cultiver les terres laissées à l'abandon dans la zone interdite. Un jour, des hommes regroupés sont partis travailler dans les champs, escortés par l'armée française. Pendant la surveillance du travail, un soldat français a été tué par un félaga, un coupeur de route. C'est ainsi que la France désignait le FLN. En guise de représailles, le capitaine Grousseau s'est vengé sur les paysans et les a tous fait exécuter. Ils étaient 43. J'ai recueilli un poème en leur hommage à Mansoura.
Des soldats français les ont tués dans cette maison. Ils les ont jetés sur les cactus. Les cactus en sont témoins. En décembre ou en octobre, je suis revenu, mais je n'ai reconnu aucun des visages qui m'étaient familiers, à part celui de l'Agdar, qui depuis 8 jours était défiguré par les charognes. L'armée française est venue nous voir. Elle a fait un discours. Elle nous a promis de nous distribuer de la semoule. Les femmes pleuraient.
L'Algérie vient de vivre sa première semaine d'indépendance sous le drapeau vert et blanc. Ainsi s'affirmait une indépendance qu'Alger, comme le reste de l'Algérie, a célébrée avec bruit, avec chaleur, en saluant les troupes de l'armée de libération.
En 1962, les Algériens ont gagné leur indépendance, mais la guerre a profondément bouleversé l'Algérie rurale. Michel Rocard l'avait évoqué sur RFI en 2004.
Le drame, il est pour l'Algérie, parce qu'on a changé toute la géographie humaine de l'Algérie. Déplacer la moitié de la population rurale de l'Algérie, changer toute sa géographie, installer des villages en des points commodes pour l'armée, mais pas nécessairement auprès de sources d'eau potable, dans des conditions telles qu'ils y sont toujours. On n'a pas pu repartir vers les villages anciens, les mechtas étaient détruites, et donc la géographie rurale de l'Algérie d'aujourd'hui est celle des camps de regroupement. C'est inouï.
Après l'indépendance, qu'était devenue cette population regroupée? Étaient-ils tous restés dans les camps? Étaient-ils retournés dans leur village? J'entends parler des villages socialistes. Sarah m'invite à aller voir l'un d'entre eux, elle y habite. Le jour où j'ai découvert les camps de regroupement qui ont touché plus de 2 millions d'Algériens, mon père m'a dit « Les regroupements, c'est le point d'attaque d'une vie brisée par la guerre qui nous a donné droit à l'errance et à l'immigration. » Droit à l'errance et à l'immigration. Cette phrase résonne encore dans ma tête. Il avait vu juste. À l'indépendance de l'Algérie, en 1962, la population regroupée, happée par l'économie de marché, violemment déracinée, se disperse à travers le territoire. Elle est à la recherche de moyens de subsistance. Chacun est livré à son sort. Ils sont peu nombreux à être retournés vivre sur leur terre d'origine. Leurs villages ont souvent été détruits et les champs laissés à l'abandon. Certains sont venus grossir le nombre d'habitants des grandes villes d'Algérie que les colons ont quittées à l'indépendance pour rejoindre la métropole. D'autres, à la recherche d'un travail, ont migré vers la France, constituant une nouvelle main-d'œuvre bon marché. Et il y a ceux qui sont restés sur place, dans les camps, n'ayant nulle part où aller. Au fil des années, les camps de regroupement sont devenus des agglomérations rassemblant des populations d'origine différente. À partir de 1971, Houari Boumediene, le nouveau président arrivé 6 ans plus tôt au pouvoir par un coup d'État, lance sa réforme agraire. Il construit un socialisme algérien initié par son prédécesseur Ahmed Ben Bella. Nationalisation des terres, du commerce et de l'industrie, industrialisation du pays, promotion de l'autogestion et révolution agraire.
Ce jour-là, le colonel Boumediene inaugurait le 5e village socialiste, celui de Oum Tebboul, près de la frontière algéro-tunisienne. 1000 villages comme Oum Tebboul seront construits et cédés gratuitement aux paysans pauvres. 2 pièces cuisine, salle de bain et 1 titre de propriété, le Fella, accueilli à l'intérieur d'un village, ici 120 maisons, où il va travailler pour la coopérative. La révolution agraire est ce qui tient le plus à cœur à Houari Boumediene, qui, à côté d'une industrialisation ambitieuse, veut favoriser les 8 millions d'Algériens qui vivent aujourd'hui à la terre.
Boumediene veut faire de l'Algérie une puissance agricole exportatrice. Il veut créer 1000 villages socialistes, un slogan qui sonne comme un écho aux 1000 villages de regroupement. Ces villages socialistes sont souvent construits à l'endroit des camps, situés dans des plaines, facilement accessibles par la route. Je comprends que les expériences des camps et des villages socialistes se superposent. Je décide donc d'aller voir un village socialiste. Je retrouve Sarah, qui m'avait accompagnée dans un ancien camp de regroupement à Melbou.
Voilà, on échantillon, des plans.
Elle me fait visiter avec fierté son village socialiste, baptisé 8 mai 45, en souvenir du massacre de plusieurs milliers d'Algériens par l'armée française.
Bakhar. De ce côté-là, on a le hammam.
Ah ouais, le hammam.
Il est intact, ils ont juste fait quelques travaux de réfection.
D'accord.
Le centre d'apprentissage. Là, on a ces deux logements qui sont encore un peu intacts.
Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est de l'or du vestige, là.
Voilà, patrimoine.
Ah, là, il y en a une autre de petite maison qui reste. Tu vois, pour moi, ça ressemble exactement...
Ça te rappelle le camp de regroupement.
Mais oui, mais c'est exactement la même structure, la même taille de fenêtre, mais c'est plus grand.
Ouais. 174 maisons ont été octroyées à des paysans pauvres. À l'époque... On y trouvait des services pour améliorer les conditions de vie des paysans. Écoles, dispensaires, mosquées, hammams. 2000 habitants vivent aujourd'hui ici. Dès 1976, un urbaniste algérien avait dressé un tableau sombre des villages socialistes. Il avait été mandaté pour faire une étude lancée par le jeune État algérien. Dans son rapport, il pointait les décalages entre discours et réalité. Il s'appelle Jafar Lesbet.
Il y a des paysans qui refusaient le village, donc qui partaient. Et donc, du coup, les gendarmes allaient les chercher pour les ramener pratiquement de force. Et parce que si les paysans quittent le village, ça montre que c'est un échec pour l'État. Et ça, il ne fallait absolument pas que ça se passe comme ça. Donc moi, sur le terrain, j'avais donc... On me laissait faire ce que je voulais. Et j'étais chercher les paysans. On m'a montré une famille qui est partie. Et ça m'a surpris, d'ailleurs. Même le langage, la mentalité, c'était... Pourquoi j'ai quitté le village? Je ne peux pas habiter là-bas. Mais tu vois ce gosse là-bas? Il y avait un gosse, les pieds nus, morveux. Il me dit, c'est mon fils. Avec fierté. Il me dit, dans mon village, tu vois mon fils, personne ne rigole sur l'état où il est. Il me dit, parce qu'il est habillé par l'histoire de ma famille. Tout le monde nous respecte. Il m'a dit, tout le monde disait, regardez ce petit morveux. Il m'a dit, les gens l'insultaient parce qu'ils ne connaissaient pas notre histoire. La maison vient bien après d'autres considérations. Et donc là, les paysans étaient hors d'eux, donc il y avait plein d'erreurs comme ça. Les choix de terrain qui étaient complètement aléatoires et stupides, et donc j'ai remis un rapport assez sévère. Et il a été lu en très haute sphère par le patron lui-même, par Bombadienne. Il a donné ordre d'arrêter les villages socialistes, mais surtout ne pas le dire. Moi, quand j'ai commencé l'étude, il y avait une centaine. Quand ils les ont arrêtés, il y avait, je crois, 400 et quelques, mais on n'a jamais fait les 1000.
J'ai l'impression que le processus d'acculturation, si fort dans les camps de regroupement, se poursuit dans les villages socialistes. Là non plus, les traditions rurales ne sont pas respectées. Élevage et jardinage qui assurent aux paysans des revenus complémentaires sont proscrits. Toute extension de l'habitat est interdite, alors que la maison est trop petite pour une famille élargie.
Et toi, tu connais quelqu'un qui accepterait de nous ouvrir sa porte ?
Oui.
C'est vrai? Oh là là, tu es la reine du village, alors.
Bien sûr, je suis la fille du village.
Sarah frappe à la porte d'une maison socialiste. Une maison de plein pied repeinte en beige, avec de petites ouvertures.
Salam alaikum.
Salam.
Ta cousine, tata.
Une grand-mère, souriante et avenante, un foulard fleuri noué sur le dessus de la tête et un châle coloré recouvrant sa robe nous invite à rentrer.
Vous étiez combien de personnes? Vous étiez 11 personnes, c'est
11 personnes.
La maison est restée quasiment à l'identique. Deux chambres, une cuisine, une salle de bain, une cour intérieure et une cour extérieure.
Ils n'ont pas accepté de venir. Les autres Bakirines ne sont pas inscrits. Pour bénéficier
des
frères de son mari. Ils étaient en France.
Ils le savent.
Les immigrés.
La grand-mère avait été regroupée pendant la guerre. Elle ne s'était jamais sentie chez elle dans le camp de regroupement. Le sentiment est le même dans ce village socialiste. Elle aurait préféré retourner vivre dans son village d'origine plus haut dans les montagnes. Elle se sentait plus libre sur ses terres.
Elle a perdu beaucoup en liberté en venant vivre ici au milieu d'étrangers.
Plus de liberté.
Pourquoi elles avaient plus de liberté hein?
Parce que par exemple, l'arche, la femme, l'harma, moi devant mon cousin, si elle me voit, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne peux pas me balader devant des étrangers.
Oui, parce que du coup, ils sont avec des familles qu'ils ne connaissent pas.
Voilà. Donc, si tu remarques aussi, donc, par exemple, elle te dit, Bakiri, il est en face. Les Raji aussi, ils sont regroupés dans un même coin. Aïtsma'al, c'est une Aïtsma'al dans un coin, Kharata dans un autre coin, et ainsi de suite.
Donc elle ne pouvait plus sortir librement comme dans le village parce qu'il y avait des étrangers.
Donc elles se sont senties.
Elles suffoquaient. Hein.
Voilà.
Et vous vous sentez bien aussi à Jabetek C'est chez vous, quoi, le village socialiste. Et vous allez au Hirak ou vous allez marcher?
Oui.
C'est vrai?
Oui.
Ah,
je pars. On part.
Toute la famille? Votre mère aussi?
Non, elle ne veut pas partir. Mais on part avec mes soeurs, mes nièces, mon grand frère. Elle part toujours mardi avec des étudiants, ainsi le vendredi, les enfants, les petits-enfants.
Et c'est la première fois que vous sortez manifester comme ça?
Oui, c'est la première fois. Oui.
Merci beaucoup en tout cas de nous avoir ouvert votre porte. Vraiment.
Nous nous baladons avec Sarah au milieu des jardins que les familles cultivent aujourd'hui pour leur propre consommation. Des coopératives agricoles, il ne reste que des petits potagers individuels où l'on croise quelques chèvres, vaches, des serres de tomates et de jeunes oliviers. Et au milieu, des constructions en béton sur des terres cultivables. L'une d'elles me surprend, on dirait un parking inachevé en plein milieu des champs. Nous tombons sur un vieil homme qui cultive son jardin.
Il a une vache, quelques oliviers et des poules.
السلام عليكم ما كانو فايده بريد
السلام عليكم
معاكي كانو فايده بريد ندور السد
Et avant ils travaillaient collectivement ici
هنا عندنا زون 21
لا باري زون كون وي لي طالبين لا لي
بوهنين
تورش كما امر سوني كليل
يمكن هذا السياحه
حتى Il a délimité sa partie du terrain. Chaque famille a délimité. Kouliouni houdd de.
Kouliouni houdd de Amarsonis.
Kouliouni houdd de Amarsonis.
Chacun donc cultivait sa partie.
Voilà. Hatzoum le wahi kouliouni zou.
Kouliouni houdd
de. Oum chérik zman boum dien et tour kif.
Eh, l'on t'aurait smadié ou t'en ferme.
Avant, ce n'était pas comme ça. C'était collectif. Là, c'est devenu individuel.
خليت ما تخليش انا بالحكومه
ها
نخدم الواحي مره
سيتي كوم
دي فيتوري ما تخليش غير الحكومه
Il habite le village socialiste depuis son inauguration en 1976. La terre appartient à ceux qui la cultivent. C'était le slogan de l'époque. Les ouvriers agricoles gagnaient peu, ils étaient salariés de l'État jusqu'en 1982. Aujourd'hui, ils travaillent toujours la terre, mais c'est pour une consommation à titre personnel. S'ils abandonnent le travail de la terre, ils la perdent. Il faut la travailler même à des fins propres. Le rêve socialiste n'est plus. Au lieu de devenir des villages à vocation agricole, ils sont devenus des sortes de cités dortoirs. Les maisons résistent mal au temps, certaines ont été agrandies, d'autres vendues au plus offrant ou tout simplement abandonnées. Toute trace réelle de projet socialiste a disparu.
Les gens de la région, ils ont peur des gens du village socialiste.
Ah oui?
J'avais une cousine avant de venir, elle me dit, Sarah, tu viens me chercher à l'arrêt du bus. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, les gens du village me font peur. Surtout, il y a ce qu'on appelle les Hjars, les gitans, le Rajar. De l'autre côté, on n'a pas pu visiter.
Mais ils viennent d'où, ces gitans?
En fait, ils sont arrivés, donc ils ont trouvé quelques maisons vides, ils les ont squattées. Avant, ils habitaient à côté de la mer. Moi, des fois, on me dit « ta'amoucht ». Et moi, je réponds « ta'amoucht » en 25 pour afficher ma fierté.
« Ta'amoucht », ça veut dire « étrangère ».
Ça veut dire qu'on vient... Que les gens du village ont des origines diverses.
T'as moucht
en 25.
C'est ça, du 8 mai 45, ouais. J'ai une identité, c'est voilà, le village socialiste. Voilà, en 25. Ouais.
L'Algérie des camps par Dorothée Myriam Kellou, mixage Sylvain Latu, réalisation Thomas Duterre.
Cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge, j'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tous ceux qui me sont très chers. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort. Seul je me parle à moi-même, j'ai failli à mon devoir. J'ai mené une vie de bohème et vécu dans le cauchemar. Quand je chante ce poème, je retrouve tout mon espoir. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort, quel que soit mon triste sort.